Avec des sujets que les médias traitent peu ou pas du tout, voici Clé en main, votre émission du vendredi sur Radio Grand Ciel. Alain Roumestan, bonjour. D'abord et encore mes remerciements pour les mails envoyés par les auditeurs à mon adresse alainroumestan@gmail.com. Notre dernière rencontre avec Robespierre n'a pas manqué d'en interpeller plus d'un et je dois dire que mon contentement fut grand quand beaucoup d'entre vous ont reconnu l'honnêteté intellectuelle de l'historien qui passe au crible de son logiciel l'histoire de cette Révolution française de nouveau controversée en cette année 2019. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'Amédée Mingard, mauricien, agent secret de Sa Majesté britannique pendant la Seconde Guerre mondiale. Yann Mingard, son fils, est bien connu des Mauriciens de Port-Louis, la capitale de l'île Maurice, pour son atelier littéraire, lieu de rencontre et galerie d'art pour artistes, journalistes, public amateur de littérature, de peinture. Lui-même a produit dessins, caricatures, peintures, livres. L'atelier est implanté dans les dépendances de la résidence du premier métis élu maire de Port-Louis avant d'être député. Yann Mingard publie un beau livre de plus de 300 pages, richement illustré d'articles de presse, lettres écrites à la famille, photographies de son père, Amédée Mingard. Titre du livre, il l'appelait Samuel, du nom d'Amédée Mingard dans la clandestinité contre l'Allemagne nazie. Livre rare qui foisonne de documents de première main, inédits, qui permettent au lecteur de bâtir, pas à pas, l'histoire au quotidien. Avec ce livre, on est en direct, en live, comme on pourrait dire, au plus profond de l'action de la résistance anglaise et française, à l'Allemagne de Hitler. Comme le dit un historien, ancien maire, le français Christian Richard, les Mauriciens peuvent, et j'ose même dire doivent, être fier de ce que Samuel, alias Amédée Mingard, a fait pendant la guerre, en particulier dans la Vienne, où il fut un véritable catalyseur. Thank you. Aujourd'hui, clé en main, votre émission mensuelle sur Radio Grand Ciel vous présente un livre rare, un bel objet, une belle iconographie, un livre qui foisonne de documents photographiques, de lettres, de coupures de journaux et qui laisse le lecteur construire son cheminement dans la vie de résistant de Amédée Maingard. Yann Maingard, le fils d'Amédée Maingard, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous recevoir dans votre maison de Tamarin sur l'île Maurice. Je sais que vous n'aimez pas trop parler de vous, mais les auditeurs français vont avoir besoin de quelques clés pour comprendre l'histoire de votre papa. D'abord, est-ce que vous pouvez en quelques mots nous parler de l'originalité de l'île Maurice, son peuplement, d'où vous venez, d'où vient votre famille?
Oui, ma famille vient de Bretagne. Le premier qui soit arrivé ici, c'était en 1747. Il avait été nommé le capitaine du port Louis. À l'époque, l'île appartenait à la Compagnie des Indes orientales. Et puis, c'était un corsaire, comme son père avant lui et son grand-père avant lui aussi. Et puis, quand le roi a repris l'île de France, il est reparti dans la marine royale, comme je ne sais pas ce qu'il était, peu importe le titre. Et ici, il a eu quelques enfants, dont je descends. À mon avis, le plus important, c'était celui qui devint le colonel Maingard, qui a combattu les Anglais ici en 1810, très important, à la bataille de Grandport, qui, comme vous savez, est inscrite sur l'Arc de Triomphe, et aussi à côté de Port-Louis, il était le capitaine de la batterie Dumas. Il a été blessé lors du combat quand il y a eu les cipayes qui sont foncés dessus, les cipayes étant des mercenaires à la solde de l'armée anglaise. Et il a été fait, par deux camps à l'époque. Et puis, ne voulant pas faire allégeance aux Anglais, il a quitté l'île. Il est reparti en France, où il a continué à être corsaire dans la Manche et peut-être un peu en Méditerranée aussi. Et puis il a été nommé colonel d'artillerie à La Réunion en 1814, après le traité de Paris, quand les Anglais ont rendu Bourbon à la France. Donc il s'est installé là-bas. Quand il est mort, sa veuve est revenue ici, à Maurice, avec deux ou trois de ses fils, je ne suis pas plus très sûr. Et voilà, nous descendons d'un de ceux-là qui s'appelait... j'ai oublié.
Une vieille famille, donc. Bon, en ce qui vous concerne, vous êtes écrivain, vous êtes peintre, vous avez créé des peintures, des dessins, des caricatures, publié des livres, et vous avez créé à Port-Louis l'atelier littéraire. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Pour quelles raisons cette création et comment fonctionne cet atelier littéraire qui est un point de passage obligé lorsqu'on vient à Port-Louis?
C'est gentil de dire ça. Mais alors, j'ai toujours voulu avoir une maison à Port-Louis puisque mes ancêtres y avaient vécu. Et puis pour une raison ou pour une autre, je n'ai pas pu en avoir une. Et puis l'occasion s'est présentée un jour et j'ai pu acheter ce bâtiment, ce vieux bâtiment en pierre, qui était en fait les dépendances du... Ce qui me plaît aussi beaucoup, c'était une dépendance du... Je crois que c'est le premier député métis de la capitale, qui fut par la suite un député de Port-Louis, et même le maire de Port-Louis. Et donc, l'idée, c'était de faire un café littéraire, et donc d'organiser des expositions pour les jeunes artistes qui n'avaient pas d'autres lieux. En passant, j'ai un copain qui est écrivain, romancier, Barnum Jamoutou, qui m'a dit qu'il voulait être un libraire. Donc, on a mis une petite partie de ce bâtiment à sa disposition pour qu'il fasse une librairie. Il n'est pas resté très longtemps, mais la librairie perdure et l'endroit aussi.
Et fonctionne avec beaucoup d'activités, d'après ce que je crois savoir.
Pas énormément, mais oui, de temps en temps, on a des lancements de livres, on a montré des films de temps en temps avec des débats après et tout. Y a pas assez.
Mais le lieu a le mérite d'exister et donc d'être un point de rencontre d'un certain nombre de personnes qui peuvent en effet dialoguer, débattre.
discuter et présenter ce qu'ils ont envie de présenter.
Ouais. Oui, le lien, le même d'exister. Moi, j'adore, j'y vais deux fois à la semaine. Mm-hmm. Et j'ai toujours rendez-vous avec quelqu'un, un peintre, un journaliste, mm-hmm. pas de politicien. Mais bon, c'est très intéressant. Bah, pour moi, c'est très intéressant.
Amédée Maigard, il l'appelait Samuel. Amédée Maigard, c'est le futur capitaine d'industrie, fondateur de la compagnie aérienne Air Mauritius, et il a eu un véritable destin en tant qu'agent secret au service de l'Angleterre, formateur de 15 000 résistants en France, et ce livre voit donc son parcours dans cette période, disons, entre 1935 jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'action qu'il a pu mener dans la résistance. Est-ce que vous pouvez, en quelques mots, nous dire d'abord, premier temps, comment votre père donc vivait avant la guerre, où il se trouvait, quelles étaient ses activités, et comment en est-il venu à s'engager aux côtés donc des forces qui luttaient contre la barbarie nazie?
Alors, sa jeunesse, ici, son adolescence, je n'étais pas là, donc je ne sais pas, je sais qu'ils avaient une... La famille a eu une propriété où ils avaient des chevaux, etc. Donc ils faisaient du cheval, ils jouaient au tennis, ils jouaient au rugby, ils jouaient au ces trucs-là. Et puis il est parti pour l'Angleterre pour faire ses études de comptabilité en 1938 à bord d'un bateau. Et puis voilà, il était à Londres quand la guerre est déclarée. À sa 21e année. La semaine après avoir eu 21 ans, il s'est engagé dans l'armée anglaise. Et puis bon, il s'était devenu un Tommy, comme on disait à l'époque, pendant quelques mois, jusqu'à ce qu'on accepte de le prendre comme officier dans une école d'officiers, où très vite, il a été embauché dans la SOE, et puis entraîné en Écosse et ailleurs, au combat à main nue, au parachutisme, je ne sais pas comment on dit ça, etc. Les radio-opérateurs, comme radio-opérateur, enfin comme tout ce qu'il faut pour devenir un agent qui allait être parachuté en France pour armer les résistants avant le débarquement. C'était ça l'idée du SOE, c'est ça. Ces gens-là étaient parachutés en France pour armer les résistants, sachant qu'un jour ou l'autre, il allait avoir le débarquement. Donc lui, il a été parachuté en avril 1943, du côté de Tarbes, et puis il est remonté, sa base était à Châteauroux, mais sa région, c'était le Poitou-Charentes en général. Donc il a armé les résistants, et voilà, jusqu'au jour J, où là, il y a les SAS qui sont arrivés. Il a, lui, reçu les SAS pour les dispatchs, pour envoyer pour leur montrer ce qu'il fallait faire. Et puis il y a les jetbugs qui sont arrivés à peu près en même temps, des équipes de trois hommes, un américain, un anglais, souvent un français. Et là aussi, c'est lui qui dirigeait, qui était Oui, qui disait il faut aller là-bas, il faut aller là-bas. Tu te démerdes.
On a eu beaucoup de, comment dirais-je, de problèmes traités entre les Français et les Anglais. Quelles étaient les relations que votre père a eues avec, disons, je dirais presque les autorités françaises pendant cette période de la résistance, puisque lui, il était anglais, et il a dû se trouver en concurrence avec un certain nombre de résistants qui, eux, sur le sol français, avaient des actions qui étaient similaires aux siennes.
Ouais. Alors d'abord, il a eu des problèmes avec les Anglais, puisque Mauricien, d'origine française, est vraiment très, très fier de cette francitude, si je puis dire. Et les Anglais ne voulaient pas trop de lui, comme dans le SOE, parce qu'ils disaient que c'était un Serbe de nationalité britannique, puisque l'île Maurice était britannique à l'époque, mais full French blood. Donc on ne pouvait pas faire confiance en quelqu'un qui avait 100% de sang français. Bon, et puis ça, comme tout le monde, apparemment, c'était très, très compliqué de rester en vie dans ces moments-là. Tous les gens qui étaient envoyés comme radio étaient très vite tués ou faits prisonniers par les Allemands. Et voilà, donc il restait là. Mais et puis il a eu un problème, lui, parce qu'il était donc un agent anglais. Et il a eu. C'était l'ennemi du BCA, par exemple. Donc il y a eu quelques problèmes comme ça. Il a eu, vous verrez dans le livre, il a eu des problèmes avec les communistes qui voulaient prêcher leur idéologie, alors que lui il était là pour les armées. Et, voilà, c'est...
Ah, on rentre dans le vif du sujet par rapport à ces querelles entre Français et Anglais, parce que c'est vrai qu'on a toujours une vision un peu idyllique de la résistance. Et on a eu des luttes intestines extrêmement fortes, d'abord entre les mouvements de résistance français, mais aussi par rapport, en effet, à tous ceux qui, américains ou anglais, intervenaient pour, j'allais dire, la cause commune, c'est-à-dire la lutte contre le nazisme. Et donc ce qui est intéressant dans le livre, c'est de voir justement que votre père est passé par-dessus tout ça, puisque l'action aidant, il a pu faire beaucoup pour la résistance, malgré toutes les difficultés qu'il a pu rencontrer avec tel ou tel représentant de tel ou tel mouvement.
Je crois qu'il a eu la chance d'être très proche d'un général FFI, le général Félix Chen, qui était, je crois qu'il était FTP avant d'être FFI. Donc ils étaient très proches de lui, donc Félix Chen a exigé que cet agent anglais soit là, en uniforme, lors de la libération de Poitiers et puis des autres pays, des autres villes, Conflans, etc., à côté. Mais il avait des problèmes avec les communistes purs et durs, qui ne voulaient pas, enfin, qui avaient besoin des armes, mais qui ne voulaient pas entendre parler d'autre chose que de leur idéologie.
Et qui avaient aussi quelques idées en tête pour l'après-guerre, et une certaine prise du pouvoir comme on a pu avoir dans les pays de l'Europe de l'Est, par exemple.
Ben oui, le BCRA, c'est un peu ça aussi. Quand De Gaulle envoie des agents comme Gros, je crois que ça s'appelait Gros à l'époque, pour prendre possession pour devenir chef des FFI, c'est un peu ça aussi. Le chef des FFI étant le général Chen, qui était un FTP, donc un communiste. Je ne suis pas sûr que Gérard Chen fut un communiste. Enfin, il était en tout cas pas gaulliste à l'époque.
Proche, disons. Peut-être compagnon de route, comme vous disiez. Mais ça, bon, point d'interrogation pour peut-être l'objet d'autres études.
Thank you. RGC.
Ce qui m'a surpris dans le livre, c'est la présentation, disons, de la région sur laquelle votre père intervient. C'est une immense région. C'est vrai qu'on est surpris par le nom des localités, par exemple, où il a pu intervenir dans les actions. Est-ce qu'il avait avec lui un certain nombre de collaborateurs, de gens qui secondaient son action? Et comment cette action a pu s'organiser sur une région aussi vaste?
Alors les gens les plus proches, c'était Jacques et Pierre Hirsch. Jacques Hirsch était son assistant direct, le plus proche d'ailleurs. Et pour la petite histoire, on dit toujours les gens disent qu'il avait une besace dans laquelle il avait des grenades, et etc., qui jouait avec. Et puis Pierre, qui était le radio-opérateur, qui a remplacé papa, qui lui-même avait été l'opérateur radio de Maurice Harvey, qui était le chef du réseau stationnaire, avant de créer son propre réseau chez Bright, quand Sargate a été arrêté par les Allemands le 1er mai 1944. Et voilà, donc il avait été cherché, Sargate avait été cherché deux agents anglais qui venaient d'être parachutés du côté de Clermont-Ferrand, Blake, j'oublie le nom.
On l'a pour, dans le livre.
Dont une dame qui s'appelait la Souris Blanche, et qui sa spécialité c'était de tuer les Allemands à main nue. Donc elle était connue comme étant la Souris Blanche. Non, mais donc il avait aussi d'autres collaborateurs. Certains qui n'étaient pas très, très amicaux. Un certain Schwarzko, je crois, qui a créé un peu des problèmes, qui payait les gens. Les résistants et autres, qui monnayaient leur service alors que c'était pas prévu de faire ça. Et j'ai retrouvé aussi un autre document où il y a un Américain qui a voulu payer des résistants avec des faux dollars. Donc ça, Samuel a refusé catégoriquement. Donc ils ont été obligés, cette équipe a été obligée d'emprunter des vrais francs pour pouvoir payer les résistants.
Intéressant en effet de pénétrer, et c'est ce qui fait de la valeur de ce livre, au plus près, disons, des actions, la petite histoire qui devient de la grande histoire. C'est mon impression.
Oui, c'est vous qui le dites.
À la lecture du livre, c'est-à-dire que on est dans des combats extrêmement compliqués à organiser, on est dans des périodes d'incertitude. Et puis la mort qui rôde, il faut être clair. Hein. Et on voit, grâce au livre et grâce aux documents dont on va parler tout à l'heure, que vous avez pu mettre dans ce livre, on voit une réalité de terrain que on voit rarement dans d'autres ouvrages de ce type. Votre père avait, c'est ce qui m'a surpris dans le livre aussi, énormément d'humour. Et cet humour transparaît dans un certain nombre de ses actions. Il y a une action que j'aimerais bien que vous nous racontiez, c'est cette histoire des faux papiers dans le train. Un culot monstre, Amédée Magard. Culot monstre.
Ouais, il avait. J'aurais dit autre chose que culot, enfin, si vous voulez.
Culot, avec le courage qui va avec, hein, ouais. Parce que bon, je veux dire, il prend des risques. Hein.
Ouais. Ah oui, mais oui, ça c'est quelque chose qu'il m'a raconté. Il ne nous a jamais raconté aucune histoire. Jamais. Mais pas de temps en temps, il nous disait des trucs comme les Allemands lui demandaient les faux papiers. Et il disait, en allemand c'était faux papiers s'il vous plaît. Et il répondait faux papiers avec plaisir en montrant de vrais faux papiers. Ça c'en est une. Et puis quand ils bougeaient de gare en gare, il allait toujours avec des valises probablement pleines d'armes, d'argent et de radio donc. Il allait toujours se mettre à côté de la milice, et là il chantait Douce France, qui était à l'époque la dernière œuvre de Charles Trenet, où ça c'est Pierre Hirsch qui me racontait, donc Pierre Hirsch ayant été son opérateur radio, celui qui était attaché à lui, et où il dansait la carmagnole devant les soldats allemands et les miliciens. C'est... moi je l'aurais arrêté, hein, si j'étais un milicien.
Oui, mais ça pouvait donner le change d'un certain point de vue aussi, parce que bon, on pourrait se dire, tout compte fait, cette personne, si elle ose ça, c'est qu'elle n'a rien à se reprocher, ou elle n'a pas de transport d'armes sous la main, quoi, pratiquement. Mais quand je parlais de culot tout à l'heure, c'est ce que j'appellerais l'héroïsme à l'état pur, parce que c'est vrai que être, comment dirais-je, aussi important dans ces mouvements de résistance, et puis avoir, comment dirais-je, ce détachement, cet humour dont vous venez de nous donner deux exemples, c'est franchement un personnage d'une autre dimension, Amédée Maigret. Pas du tout quelqu'un qui, comment dirais-je, peut laisser, comment on pourrait dire ça, peut laisser indifférent. C'est quelqu'un qui, au contraire, vraiment, a dû marquer les gens avec lesquels il a pu travailler. Et d'ailleurs, on retrouve un certain nombre de lettres dans le livre qui montre que beaucoup de ceux qui ont travaillé avec lui étaient admiratifs. Je sais bien que le mot va vous déranger, puisque vous, c'est votre papa, donc c'est pas un héros, mais très franchement, on voit des gens qui sont bluffés, quoi. Ils sont bluffés par le...
On l'appelait, mon cher général, mon cher colonel. Oui, effectivement, il donnait des titres qu'il n'avait pas. Enfin, oui, c'était... Probablement l'image de cet étranger, puisqu'il était étranger, même s'il parlait mauricien, français, mauricien. C'était un étranger, donc, de cette armée anglaise qui, un agent anglais qui était... C'est pas sûr que les Français soient... aient beaucoup apprécié leur présence à cette époque-là.
Oui, on est loin de l'entente cordiale aussi. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais c'est pas bon. C'est pas l'objet de l'émission, mais on pourrait en reparler. C'est vrai que on s'attend pas d'ailleurs à cette concurrence un peu bête qui existe avec des agents anglais, notamment votre père, qui peuvent se retrouver en butte à des critiques. Alors que l'ennemi commun est là, que le combat fait rage, et que la seule idée, c'est d'être unis. Hein, mais on a quelquefois des comportements qui surprennent. Quelque chose également moi, qui m'a surpris, c'est le comportement de l'Inde et des Indiens qui, pendant cette Seconde Guerre mondiale, se sont tournés vers l'Allemagne, espérant que l'Allemagne, en quelque sorte, les libérerait de l'Angleterre et de la colonisation anglaise.
Oui, mais là, ce dont je parle dedans, c'est vraiment ces 3500 Indiens qui ont été faits prisonniers par les Allemands, qui étaient d'abord... en Afrique du Nord, fait prisonnier par les Allemands, et qui, au fait, ils voulaient chercher l'indépendance de l'Inde. Ils ont suivi Chandra Bose, qui était l'anti-Gandhi, et qui, lui, était pro-Allemagne et pro-japonais, surtout. D'ailleurs, quand il a réalisé que l'Allemagne n'était pas là pour leur donner l'indépendance à l'Inde, il a demandé qu'on le transfère en U-boat, jusqu'à Cape Town, disons, et puis de là, il a pris un sous-marin allemand, japonais, jusqu'à Singapour. Et c'est ainsi qu'il est rentré là-bas. Mais je suis pas sûr que ce soit... Alors, bon, on n'était pas là, Mais c'est vrai que tous ces Indiens qui ont été faits prisonniers après la guerre, cette légion indienne, des Waffen-SS, je ne sais pas comment on dit ça en allemand, ils ont été renvoyés en Inde, faits prisonniers dans le fort rouge de Bombay, je crois. Et c'est la rue qui les a fait libérer. C'est-à-dire que tous les Indiens se sont massés autour de ce fort pour faire libérer tous ces prisonniers britanniques. Ceci voulant dire qu'effectivement, déjà là, à l'époque, parce que là, l'indépendance de l'Inde, c'est 48, hein, c'est très peu de temps après.
Quasiment concomitant avec la fin de la guerre.
La phrase de Gandhi qui dit que Chandra Bose était. Comment pouvait-il se s'allier à des gens comme l'Allemagne et les Japonais? Et Bose de répondre. Give me blood, and I'll give you freedom. Mm. C'est quand même.
Vous traduisez pour les auditeurs.
Donnez-moi du sang et je vous donnerai la liberté.
C'est plein de sens tout ça. Ah, tout à fait, tout à fait. Et puis on est loin aussi. C'est ça le talent et le prix du livre. On est loin de l'histoire officielle. Quoi. On est dans la réalité, et même quelquefois si cette réalité peut déranger.
Oui. Oh, mais c'est juste d'un individu, hein. Tout tourne autour de lui. C'est...
Oui, mais quel individu, très franchement.
Ouais, mais vous savez, quand vous regardez si vous allez voir j'ai beaucoup voyagé sur le web pendant quelques mois pour trouver d'autres informations, d'autres détails. On ne le connaît pas. On ne connaît pas M. Félix Chen, le général Chen. On ne le connaît pas beaucoup. On connaît surtout le Giraud, enfin, le De Gaulle, Giraud, Churchill,
Chaban-Delmas.
Chaban.
Moi aussi.
Ouais. D'ailleurs, papa a été décoré par Koenig devant, en présence de Chaban-Delmas à Londres. On connaît Jean Moulin, on connaît très peu Freinet, qui était le premier.
Qui était pourtant un homme important.
Qui était le premier, enfin celui dont on parle, pas le plus, le moins, mais qui était apparemment le premier résistant. Celui qui.
Et des luttes intestines très fortes.
Ouais.
Freinet n'était pas.
Freinet était un socialiste, c'était pas un.
Et puis c'était pas un homme qui, laissait les autres indifférents. Parce qu'il avait en effet de l'importance. Donc on a là aussi un certain nombre de résistants qui ont été anti-freinés, mais viscéral.
Il a d'abord cru en Vichy, il a d'abord cru en Pétain, avant de changer de. Au métier Jean Moulin qui le fait basculer, enfin qui l'attire vers De Gaulle.
Du bon côté.
Radio Grand Ciel.
Pour conclure sur cette période de résistance, ça se termine comment pour votre père, la résistance en France?
Ça se.
Et qu'est-ce qu'il fait après la guerre?
Alors, après la guerre, les Anglais décident de l'envoyer en Birmanie pour continuer à se battre contre les Japonais à l'époque. Et en partant pour il devait être basé en Inde. Donc, en partant pour l'Inde, il s'arrête au Caire. Et il demande à venir revoir ses parents, qu'il n'est pas vu depuis 3 ans, disons, à Maurice. Et en arrivant à Maurice, il s'est dit, fichier, la guerre, maintenant ça suffit, en Europe c'est terminé. Il voulait l'envoyer en Allemagne, il a dit, non, là je ne parle pas allemand, qu'est-ce que vous voulez que j'aille foutre là-bas? Il a demandé à avoir un poste avec Buckmaster, pardon, qui était le chef de la DSOE, section F, c'est-à-dire F France. Mais il n'y avait pas de job pour lui, donc on lui dit de rentrer tout de suite en Angleterre. Il va suivre c'est pas un cours, mais un entraînement chez les Jetbugs. C'était des commandos parachutistes, le numéro j'oublie, enfin j'oublie le titre, mais c'est des méchants.
Des dieux de Dieu.
Les dieux de Dieu, ouais. Qu'on devait envoyer justement en Birmanie. Ouais. Donc après 6 semaines ou quelques, je sais pas, 2 mois. Il devait parachuter, renvoyer en Birmanie, et puis la guerre se termine, donc c'est fini, ça s'arrête là. Et il rentre à Maurice.
Quelques mots sur ce qu'il fait. Je sais bien que, bon, c'est pas l'objet du livre, mais c'est quelqu'un qui, au niveau de l'économie mauricienne, compte énormément. Qu'est-ce qu'il réalise qui fait sa renommée encore à l'heure actuelle sur l'île?
Il est à l'origine de l'industrie touristique. Avant lui, il y avait des hôtels à Maurice, on fait quelques trucs. C'est lui qui le premier fait construire plusieurs. C'est lui qui est à l'origine des Mauritius, obligatoirement avec l'appui du premier ministre d'alors, Sir Sagar Angoulam, qui s'entendait très bien. Donc voilà, c'est le tourisme ici, c'est quand même lui qui était à l'origine de ça.
Qui a donné une coloration particulière à l'île et à son économie.
Qui est peut-être aujourd'hui un peu décrié, mais bon. C'était à l'époque, c'était... Et ce qui est intéressant surtout, c'est que dès 1942, donc en Angleterre encore étudiant, ou dans l'armée britannique, il avait des copains, à qui il disait qu'il allait rentrer, quand il rentrerait à Maurice, il allait se lancer dans le tourisme. Dès 42. Oui, donc voilà, il a...
Une sorte de prémonition.
Ouais, ouais.
Une anticipation sur ce qu'allait devenir l'économie mauricienne.
Je sais pas si il avait dû voir les congés payés, etc., qui avaient déjà commencé. Et qui disait, ben, ces gens-là, ils vont voyager, ils vont...
C'était une belle anticipation, parce que c'est vrai qu'en 1936, il y a les premiers congés payés, les premières plages qui sont, avec des gens qui auparavant n'avaient jamais, vu la mer ou vu d'autres paysages que le quartier dans lequel ils vivaient, dans lequel ils travaillaient. C'est vrai que c'est une anticipation très, très forte de se dire, en effet, ces gens-là, un jour ou l'autre, ça ne sera plus la France, ça ne sera plus l'Europe, mais ça sera le vaste monde, et notamment...
Une chose qui est amusante, c'est que l'hôtel du Marne, ici ça s'appelle l'hôtel de Marne-Plage. Ce qui est. C'est un peu ridicule parce que c'est sur une plage. Et il l'a appelé parce qu'il était le 1er mai, donc 1944, quand son chef Southgate se fait arrêter par la Gestapo. Lui, il est à Montluçon-Plage, avec Pearl Cornelet, les IS, etc. C'était le 1er mai, donc ils avaient été faire un pique-nique. Donc il a appelé le Marne-Plage après. À cause de Montluçon-Plage. Alors les gens ici se demandaient, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Marne-Plage, il y a déjà une plage. Et voilà, la raison c'est ça. C'est tout simplement en mémoire de ce jour, 1er mai 1944.
Thank you. sur la manière dont vous avez travaillé par rapport à ce livre, qui est un livre, comme je le disais en introduction, vraiment exceptionnel, parce qu'on a une tonne de renseignements, mais de première main, de documents d'archives, mais de première main, des lettres, des photos, des coupures de presse, etc. Comment vous avez travaillé par rapport à cela, et qu'est-ce qui vous a donné envie, si vous voulez, de publier, mis à part
Il fallait que je le fasse. C'était... Donc j'avais, comme vous voyez là, j'ai des documents qui sont là, depuis que je les connais même de son vivant. On n'a pas le droit d'y toucher, parce que la valise à France, là, la femme tire réglée a marché. Mais bon, maintenant, elle est pétée depuis. Mais non, il fallait que je le fasse. C'était... Et donc, ben voilà, j'ai commencé par trier tout ça, numériser, mettre en ordre chronologique. J'ai aussi un album photo. Je suppose que cet album photo, c'est tous ces gens-là avaient le même album, avec les mêmes photos. On retrouve un peu partout sur le net, c'est les mêmes photos qu'il a, lui, et dans les photos au bas desquelles il a lui-même annoté, il a légendé chaque photo. En disant là, vous voyez, les Allemands sont pieds nus parce qu'on leur a pris les chaussures pour donner aux résistants, etc. Donc il y avait ça. Et puis j'ai passé quand même quelques années sur le web à trouver d'autres détails. Il y a le CRDP de Poitiers et le CRRL de la Creuse m'ont donné l'autorisation de publier ces quelques données, quelques documents, des cartes, etc. Et donc voilà, il y a. Et puis j'ai lu beaucoup de livres sur la guerre à cette époque, surtout sur les SOE, les SA, etc., où on parlait de lui. J'ai reçu le livre de Christian Richard, qui est un historien, qui était maire de TRC à l'époque, et qui lui aussi a écrit des livres dessus, sur sa région. Et dans l'un de ses livres, qui sur le maquis Le Chouan, ben, il est question de ça dedans assez souvent. Voilà, donc c'était... C'est comme ça que j'ai récupéré des documents et je ne sais pas tout. En plus, je ne sais pas tout.
Et vous me disiez, avant de commencer cette interview, qu'il vous reste encore beaucoup de documents.
J'ai beaucoup de documents, j'ai beaucoup de lettres, des lettres personnelles qui ne sont pas grand intérêt pour un livre sur la guerre, mais qui parlent quand même de ça. Il parlait tout le temps à son père, il dit voilà, on a été s'entraîner en Angleterre, ici, là-bas, etc. Et puis, il y a un document assez important qui s'appelle l'affaire du faux Tonkin. Tonkin étant le capitaine SAS, John Tonkin, qui a été parachuté donc le 7 juin, dans la nuit du 6 au 7 juin, et que papa a reçu, accueilli. Et c'est Samuel qui lui a dit. Où il fallait qu'il aille, d'après les ordres de Londres, bien sûr, hein, c'est pas Samuel qui décidait. Mais donc il y a eu un monsieur qui a perdu la tête, qui était probablement à l'origine de la. C'est probablement lui qui a dénoncé les soldats SAS dans la forêt de Verrières. Et donc, comme vous savez, il y a 28, je crois, qui ont été assassinés par les Allemands. Enterré dans une fosse commune, qu'on a retrouvé, que les chasseurs ont retrouvé quelque temps après, à Saint-Sauvent. Et c'est probablement lui, ce mec-là, un Belge, qui a été retrouvé dans un asile psychiatrique en Belgique, où il accusait Pierre Hirsch d'avoir été le traître. Et en vérité, c'était lui-même qui avait été... En fait, il accusait un autre d'avoir fait ce que lui avait fait. Et pour ça, Tonkin... Et papa était en correspondance, j'ai les correspondances, j'ai pas mis dedans parce que c'était pas... Donc ils sont en correspondance, ils disent, ben oui, voilà, c'est pas vrai, moi je reconnais, etc. Donc ils ont été là-bas pour témoigner que Hirsch n'était pas celui qui était accusé. C'est encore 20 pages de documents.
Et vous me disiez que votre père n'avait jamais parlé à ses proches de quoi que ce soit. Ces documents étaient là sans qu'il y ait aucune utilisation de sa part, par exemple. Ouais.
Alors, à mon avis, il avait un de ses très bons copains qui est devenu le cardinal Margeau, le cardinal de Maurice. À mon ami, c'était probablement son confesseur. Donc, c'était sans doute à lui qu'il a confessé avoir tué des Allemands, etc. etc. Il était très proche de Raphaël Touze, qui était le premier ambassadeur français à Maurice, après l'indépendance en 68, qui lui-même a fait la guerre. Je crois qu'il était en Casamance, puis il a écrit un truc sur Mignonnan en Casamance, ou quelque chose comme ça. Et moi, j'ai été là-bas chez lui, j'étais copain à son fils Touze, à Smarve. Il avait une maison à Smarve, à côté de Poitiers. Donc, on avait été traînés dans les villes à côté pour essayer de retrouver des résistants qui avaient connu papa. Et tous me voyaient malader parce que. Mais ça, qu'est-ce que c'est ce petit con qui vient nous emmerder. J'avais 20 ans à l'époque, donc c'était. Voilà.
Bien, je vais vous remercier de tous ces renseignements. Le livre, étonnant pour l'instant, ne le trouve pas en France. Non. Uniquement sur l'île Maurice. Très sincèrement, je pense que ce serait intéressant qu'il puisse être publié en France. Sous une forme ou sous une autre, soit la totalité, soit, disons, un choix de documents, de lettres, etc. À voir. Donc,
Mais je vais envoyer quelques exemplaires au CADP, au CRL, dans la VRID, etc. Toutes ces associations qui l'ont.
C'est sûr que dans toute la région Poitou-Charentes, par exemple, je pense que pas mal d'historiens locaux peuvent avoir intérêt à lire les documents que vous avez là, parce que ces historiens locaux, ils ont travaillé notamment sur la résistance avec les documents qu'ils avaient sous la main.
Français.
Mais ils ne savaient pas qu'à Maurice, on avait cette documentation immense que vous mettez donc dans le livre, avec beaucoup d'à-propos. Merci.
Charlie Parker, dans son Feeling Through the Dark, nous a accompagnés musicalement tout au long de l'émission. N'oublions pas que ce saxophoniste génial était le Bird du film de Clint Eastwood avec Forest Whitaker. Le mois prochain, nous parlerons diversité des origines françaises en allant au-devant d'une Française, Janina, d'origine italienne, divorcée d'un Français d'origine polonaise et ayant deux enfants français nés au Népal. Je l'ai interviewée il y a peu, elle qui vit dans le sud ensoleillé de la France, mais qui rend visite régulièrement à sa mère, vivant dans la belle région des Hauts-de-France, ex-Nord-Pas-de-Calais. Une rencontre forte, pleine de sens, des tranches de vie comme nous les aimons dans Clé en main. N'oubliez pas que l'émission Amédée Mingard, Mauricien résistant, est rediffusée dès ce soir, vendredi 25 janvier à 20h, vendredi 1er février à 21h, et en rediffusion à votre demande sur Radio Grand Ciel, Clé en main. Prenez soin de vous et des autres, et à plus tard. Thank you.
to know much better. Ain't tough enough to be.